puce à l'oreille.
C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour. We are the world. We are
the children.
La puce à l'oreille sur Radioscope 107.
Bonjour, invité aujourd'hui dans notre émission et par téléphone en mode confinement, lui aussi Bruno Duverger, député de la première circonscription du Pas-de-Calais, un entretien, une émission pour évoquer les missions des parlementaires et leur organisation dans cette période de confinement, et puis également pour parler d'économie, économie actuelle, l'économie à venir. Bruno Duverger, bonjour. D'abord, première question, comment vous êtes-vous organisé pour continuer à travailler en cette période de confinement et en quoi consiste ce travail?
Bon, d'abord, moi je me suis confiné 3 jours avant la date officielle, puisque j'étais à l'Assemblée dans les lieux où des collègues avaient été contaminés et puis des agents de l'Assemblée avaient été contaminés. Donc, veut dire que j'ai annulé toutes les réunions physiques. Donc, au niveau déjà de l'Assemblée, on a des députés qui sont confinés à Paris. Dans notre groupe, on en a 2 ou 3 qui portent, en fait, quand il faut voter les lois, qui portent, en fait, tous les votes des députés. Ensuite, on a le lundi à 16h30, donc notre réunion de groupe hebdomadaire, pour pouvoir avoir aussi nos collègues de Guadeloupe, que tout le monde puisse être présent dans ces réunions, donc tenir compte du décalage horaire. On fait ça par Zoom, donc ce sont des réunions qui se font, on est à 50. Ensuite, les commissions, la commission finance a redémarré depuis la semaine dernière. Et donc là, sachant qu'il y a à peu près 80 députés par commission, plus des collaborateurs, ce sont des sessions à 100, que l'on fait aussi par Zoom, et ça fonctionne assez bien.
Avec, je suppose, dans cette commission, justement, des ordres du jour adaptés à l'actualité?
C'est ça. En fait, et on est surtout dans un mode audition. Donc, hier après-midi, on a entendu l'INSEE, la BCE et l'OCDE. Donc, ce qui nous a permis d'avoir une vision des chiffres d'évolution de l'économie, à la fois sur la France, sur la zone euro et sur le périmètre de l'OCDE. Globalement, 3 présentateurs disaient à peu près la même chose. On a une baisse de l'activité moyenne de 35%. Sachant qu'on a des secteurs qui ne baissent pas, par exemple la location immobilière, les loyers se sont perçus, donc il n'y a pas de baisse, puis d'autres sont à moins 80%, moins 100%. Et ça, de façon assez uniforme sur tous les pays touchés, avec des pays plus touchés que d'autres, la France étant dans la moyenne. Les pays les plus touchés, c'est certainement l'Espagne, l'Italie, qui ont un gros pourcentage de leur PIB qui est lié au tourisme, à l'hôtellerie, etc. Et ils sont vraiment une chute plus importante, eux, ils sont à plus de 40% de chute d'activité.
Il y a un constat immédiat, il y a également des prévisions pour ces pays, et comme pour la France, laisse à penser que mesurer le choc économique, ce sera assez compliqué. Du reste, on sait que la facture sera lourde. En connaître la valeur réelle, on arrive à avoir une estimation?
Non, justement. Et hier, le directeur de l'INSEE, puis donc BCE et OCDE, tous les 3 unanimement se refusaient à faire des prévisions, puisque on ne connaît pas à quelle échéance on va sortir du confinement. On ne sait pas quelles seront les nouvelles habitudes de consommation des citoyens. Il y a trop de paramètres qui sont inconnus pour pouvoir faire une quelconque prévision en termes de reprise économique.
Notre continent, le monde a su se relever de 6 années de guerre. On sait très bien que ça demandera des efforts. Faut rester optimiste. Il y a des moyens à mettre en œuvre. Tout ne peut pas s'arrêter.
On est d'accord. Ben oui, je suis complètement d'accord avec ça. Je pense qu'il va y avoir d'autres façons de faire. Je continue ma description parce
Oui.
qu'on va revenir sur ces analyses et constats, etc. Donc, mercredi, on avait aussi une autre commission finance où on avait personne représentant la Fédération nationale des banques. Et ça, je vais en parler après parce que c'est un vrai problème. Tout ça pour dire qu'on a une vision. Donc, à la fois par mes réunions de groupe parlementaire et par les commissions finances globales des choses. Ensuite, localement, mon équipe et moi-même qui recevons beaucoup de sollicitations, de remontées de terrain, donc on se réunit tous les 2 jours, donc lundi, mercredi, vendredi, pour faire le point. À la fois, je les débriefe de ce qui se passe au niveau national et eux me remontent ce qu'ils entendent à la fois des entreprises, des associations, des citoyens, etc. Donc, on a un échange comme ça. Ensuite, le vendredi soir, 18h, c'est le préfet qui réunit les parlementaires du département, donc les députés et les sénateurs, avec après en présence de quasiment tous les directeurs des services de l'État et puis les organismes parapublics, où voilà, on fait remonter au préfet localement, entre ce qu'on entend au niveau national et ce qu'on entend sur le terrain, il y a un décalage, et on fait remonter ça donc au niveau du préfet, voilà, chaque député peut s'exprimer. Le samedi matin à 10h, là, c'est le directeur de l'hôpital, du centre hospitalier d'Arras, qui fait une conférence incluant les EHPAD qui dépendent de l'hôpital et qui fait un point donc sanitaire, organisationnel, etc., de moyens, logistique, voilà, pour qu'on soit bien au courant et qu'on puisse aussi lui remonter les problèmes. Et puis, dernier point que j'ai mis en place cette semaine, j'ai demandé aux têtes de réseau d'entreprise, donc les clubs d'entreprise des différents territoires, s'ils le désirent, d'organiser une téléconf avec mon équipe, avec moi-même, pour qu'ils me remontent les problèmes. Et donc, on a démarré hier, donc avec Osartis. Il y avait 5 entreprises représentées, donc Eric Gricot, le président du club, plus une agence immobilière qui ne fait que des transactions et pas de location, qui avec certaines typologies, avec une entreprise de formation qui fait des CACES, des choses comme ça, une entreprise location de bâtiments commerciaux, et puis on a parlé aussi d'une entreprise de pompes funèbres. Et ça, je pense que c'est le plus intéressant, parce que c'est là où on mesure l'écart entre les dispositifs mis en place par l'État et la réalité du terrain. Et en fait, ce qu'ils disaient tous hier, c'est que les dispositifs, c'est le bon, ce sont les bons. Je veux dire, entre le décalage de charges fiscales, le décalage des cotisations sociales, et on parle même maintenant de l'annulation des cotisations sociales. Le prêt garanti par l'État, le décalage de 6 mois des remboursements de prêts, le fonds de solidarité qui va jusqu'à 1 500 euros, tout ça va. Sauf que dans la mise en place, le chômage partiel, puis les arrêts de travail, maladie, garde d'enfants, donc on a un arsenal qui théoriquement, peut fonctionner. Il y a un décalage par rapport à ça.
Bruno Duverger, député de la première circonscription du Pas-de-Calais. Ce décalage entre les dispositifs et dispositions prises au niveau national et leur déclinaison localement, on en parle dans un instant dans la suite de notre émission.
Radio.
Radio.
Radio. Scarpe sens.
Radio Scarpe Sensé, la puce à l'oreille, Hervé Dujardin.
Mon invité aujourd'hui en mode confinement, Bruno Duverger, député de la première circonscription du Pas-de-Calais. Avant la pause musicale, nous évoquions les dispositions prises au niveau de l'État pour venir en aide au secteur économique et le dysfonctionnement quand il s'agit de les appliquer localement. C'est ce que vous dénonciez, monsieur le député. Expliquez-nous, ce sont lesquels ces dysfonctionnements locaux ?
Premier décalage, c'est la directe est submergée et donc il faut une semaine pour obtenir les codes qui permettent de démarrer le processus de demande de chômage partiel. Et puis donc là, les entreprises, ça faisait un mois qu'elles avaient demandé le chômage partiel bientôt, et ça venait juste d'être approuvé, quoi. Donc c'est compliqué de ce côté-là. Donc c'est plutôt ça. Et le gros problème, le plus gros problème, ce sont les banques qui ne jouent pas le jeu. Et ça, je l'ai remonté au préfet tout à l'heure, j'ai appelé le préfet directement pour qu'on ait à l'ordre du jour ce soir. J'ai demandé à ce que le directeur de la Banque de France soit présent dans notre réunion du ce soir, qui lui ne voit pas ça, parce que en fait ça dépend non seulement de l'agence, mais du conseiller. Il y a des choses très précises. Pour obtenir le prêt garanti par l'État, donc ils sont garantis à 90% hein, par l'État, ça peut représenter jusqu'à 3 mois de trésorerie. Et puis, on le donne automatiquement pour les entreprises qui ont un score de 5+. Pour info, donc le scoring de bancaire, ça va de 1 à 10. 1, c'est très bien, 10, c'est pas bien. Donc, jusqu'à de 1 à 5+, c'est automatique. Et il y a une discussion avec l'entreprise pour les 5 et les 6, hein, qui peuvent être dans des situations, peut-être ils n'étaient pas très bons il y a un an, il y a 2 ans, mais ils sont dans une bonne passe en ce moment. Voilà, et donc, on discute de tout ça. Et ça, je demandais aux entreprises quel était leur scoring. Alors là, il n'y a pas souvent, les entreprises sont rejetées sans savoir, ou alors elles n'ont même pas d'interlocuteur. Elles appellent, elles ne sont pas rappelées. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, je demandais quel était le scoring. Elles ne savent pas. Enfin, bref, la banque, elle ne joue pas le jeu du tout. Sur le report des prêts de 6 mois, il y a des banques qui proposent 3 mois. Pour une entreprise, des artisans qui font le demande de prêt garanti par l'État, la banque propose un découvert à 25% d'intérêt par an.
Dans quelle mesure, face à des banques privées, l'État peut imposer la règle du jeu ? C'est votre rôle, ça ? C'est le rôle du parlementaire d'imposer au secteur privé bancaire les règles du jeu et d'imposer les conditions ?
Ben, je pense. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a un dispositif qui vient du gouvernement. Donc cette semaine, dans la commission finance, on invite je ne sais pas quelle était la secrétaire générale de la Fédération nationale des banques, qui confirme que la Fédération nationale des banques est d'accord avec le gouvernement pour mettre en place tous ces dispositifs. Hein, donc report de remboursement de prêt de 6 mois, prêt garanti par l'État, etc., etc. Si la Fédération nationale des banques dit « voilà, on est en phase », on peut espérer que sur le terrain, ça fonctionne. Et après, ce sont des objectifs locaux, d'agences locales, de personnes, de conseillers qui ont, voilà, qui, je sais pas, qui veulent faire carrière, on sait rien, qui veulent être plus zélés que les autres. Voilà, on est aujourd'hui dans cette situation-là. Donc, et c'est pour ça que j'ai demandé à ce que le directeur de la Banque de France fasse partie de notre réunion ce soir.
Alors, des dispositifs imposés au secteur bancaire pour venir en aide au secteur économique, des dispositifs nationaux et des compléments également locaux qui se développent sur le territoire, ça aussi c'est important. Les collectivités locales mettent la main à la poche.
Oui, c'est bien, c'est bien. Et c'est très bien, il faut le faire. Et je sais que ITA s'est mis à disposition des collectivités pour organiser ces prêts qui vont certainement correspondre à des entreprises qui ne rentrent pas dans le cadre. Je pense surtout aux entreprises qui ont moins d'un an et qui ont été parfois accompagnées par les EPCI ou par la BGE ou par ITA, ou par, voilà, qui sont connues. Ils sont connus leur plan de développement, etc. Et donc, on est capable d'estimer si elles sont viables sur leur business plan, etc. Donc ça, c'est bien. Il faut par contre, à mon avis, c'est personnel hein, ce que je dis là, il faut que chaque EPCI soit un point focal d'information. Parce que tout ce que je viens de vous dire, sur tous les dispositifs, la question que je posais aux entreprises, comment vous faites pour être au courant, etc. Soit ils ont des bons experts comptables, et là ça se passe très bien, ou alors ils sont à la pêche tous les jours. Moi je pense que c'est les comptes de com, hein, c'est leur compétence économique qui fait ça. La CUA le fait très bien, Thermoacom le fait aussi. C'est là la plus grande utilité, être sûr que toutes les entreprises soient bien au courant que de tous les dispositifs qui sont en place et qu'ils aient le mode opératoire pour utiliser ces dispositifs.
C'est-à-dire que les intercommunalités prennent attache avec la préfecture qui relaie également ces dispositifs.
Non, je pense que c'est pas ça. C'est que je pars dans un autre domaine qui est l'exercice de la compétence économique dans chaque EPCI, dans chaque com de com, qui n'est pas égal partout. Mais aujourd'hui, la CCI n'est pas forcément présente partout, la Chambre des métiers n'est pas forcément présente partout. Et je pense que les com de com peuvent faire ce liant entre tous les organismes, donc la direct, directement avec la direct, avec la DDFIP hein, au niveau du fisc, avec l'URSSAF, avec tous ces organismes. C'est là où on peut aider plus. Bien sûr, en plus de ça, faire une aide financière, c'est très bien. Voilà, il faut le faire.
Une question qui me traverse l'esprit, finalement, parce que après tout ça, ça également, forcément, ça risque d'avoir un effet sur les foyers, sur les gens qui travaillent, qui aujourd'hui, parfois au chômage partiel, ont déjà une baisse de leur revenu. L'idée d'un revenu universel dans une telle situation, c'est quoi? Ça reste une utopie ou c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être repenser? On en a parlé au cours de la dernière élection, c'était notamment au programme de M. Hamon, je me souviens très bien. Ça vous paraît pertinent, cette idée, dans une situation telle que l'on la vit aujourd'hui?
C'est la bonne question. Voilà, c'est une bonne question. J'ai pas assez de recul. Aujourd'hui, moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est dans quel état on va, un, trouver l'économie et deux, trouver l'État après la crise. Parce que, voilà, on aura. Donc, vous avez dit les foyers, dans quel état ils seront, les entreprises dans quel état ils seront, et l'État dans quel état il sera. Parce que là, bon, on était, vous savez, on se bagarrait pour ne pas dépasser 100% du PIB en termes de dette, de ne pas dépasser 3% de déficit. Annuel, tout ça, ça explose. Les gilets jaunes, ça nous avait coûté, 10 milliards dans le budget. Là, on est dans les 30, 40, 50 milliards avec la garantie. Je parle de tête, hein, mais je pense que je ne suis pas très loin de la vérité. La crise de 2008 pour l'État, je ne sais plus, il y avait eu 15 milliards de mobilisés ou 20 milliards de mobilisés pour garantir les banques. Aujourd'hui, le prêt garanti par l'État, c'est 300 milliards. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, les États vont se refinancer peut-être par la BCE. Hein, je veux dire, il va y avoir des mécanismes internationaux de garantie des dettes d'État, mais on va exploser le 100% du PIB. Hein, je ne sais pas où est-ce qu'on va aller. Donc, c'est tout cet équilibre-là entre les ménages, qu'est-ce qu'ils ont pour vivre? Les entreprises, quels marchés nouveaux elles vont pouvoir reprendre et à quelle vitesse elles vont reprendre? Je discute donc, par exemple, comme Artois, une grosse partie de leur chiffre d'affaires, c'est tous les événements sportifs, notamment cyclistes, où ils font du covering de véhicules publicitaires. Tous ces événements-là, mai, juin, juillet, août, les courses cyclistes, elles ne vont pas avoir lieu. Donc, non seulement, même si on repart dans l'économie, certaines entreprises vont voir leur marché pas de redémarrer avant septembre, octobre, novembre.
Oui, c'est-à-dire qu'il y aura pour elle un manque à gagner, peut-être également l'obligation d'imaginer autre chose pour justement reprendre une activité, réorienter parfois même leur activité.
Ben oui. Et de toute façon, moi je pense qu'on va avoir une réorientation de l'économie. Aujourd'hui, on était dans une phase de relocalisation de l'industrie, mais là il va falloir l'accélérer. Et ça fait, à mon avis, ça doit faire partie des réflexions de l'État. Quelles sont aujourd'hui les productions que l'on doit absolument avoir sur le territoire français, voire européen? Donc ça veut dire qu'il va y avoir une économie qui va se réorienter de façon différente, à mon avis, après la crise.
Vous évoquiez tout à l'heure 2008 et l'aide apportée par l'État pour sauver le système bancaire, un effort qui a été également payé en partie justement par les collectivités à qui on a demandé également un effort et de contribuer à cet effort national. 12 ans après, il faut que les banques jouent le jeu. Si on boucle avec ce qu'on disait tout à l'heure, voilà, il faut que les banques soient réactives également sur l'accompagnement nécessaire des acteurs économiques, des TPE et entreprises.
Bien sûr, exactement ça. Je veux dire, c'est le juste retour des choses. Et surtout qu'avec la crise de 2008, on a demandé aux banques d'être mieux capitalisées, voilà, d'avoir des fonds propres plus forts, plus costauds. Et donc, elles sont aujourd'hui plus fortes qu'en 2008. Elles sont mieux structurées. Elles sont prêtes, elles, pour accuser le coup, même si on commence à avoir des informations comme quelques banques qui sont en difficulté. Mais grâce à 2008, elles sont mieux structurées. Donc, ça serait le bon retour, le juste retour des choses que de jouer vraiment le jeu, bien sûr.
Bruno Duverger, député de la première circonscription du Pas-de-Calais, la suite de notre émission dans un instant.
La puce à l'oreille.
Radio.
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 Scarpe sens.
J'ai l'impression, soleil levant, collé sur la rétine. L'étoile s'écroule juste devant, dans le creux de la ville. J'ai l'odeur de la dernière danse, scotché dans les narines. L'écho de la sueur des gens se colle sur les vitrines. Les rues. Sur moi, les cœurs brisés, les rêves mouillés, je les cueille comme ça. J'ai l'odeur de la dernière chance collée sur les habits, l'écho de la soirée des morts. Le cœur liquide la ville.
Radio Scarp Sensée, la puce à l'oreille, Hervé Dujardin.
Mon invité aujourd'hui, Bruno Duverger, en mode confiné, évidemment, pour nous parler de la gestion de cette crise et du travail des parlementaires actuellement. Alors, c'est vrai que le calendrier parlementaire a été bousculé, que la réforme des retraites a été ajournée, sine die. Cependant, pendant le débat, il a été question de la pénibilité. Aujourd'hui, les conditions de travail, de retour des salariés dans leur emploi, elles doivent également être pensées en termes de pénibilité, de dangerosité. Monsieur Duverger, député.
Oui, oui, mais ça l'est déjà hein, aujourd'hui pour les entreprises. Une des grandes confusions que l'on a dans le domaine de l'entreprise, c'est au niveau du BTP, où contractuellement, donc, ils ont dû arrêter 10 jours d'analyser chaque chantier, de repartir en fonction de l'analyse sanitaire de chaque chantier. Moi, quand je discute avec des sociétés du bâtiment, elles disent mais ils sont vraiment gênés, ils ont la pression des clients qui veulent que ça redémarre, mais eux, ils sont responsables de voir leurs employés. Sinon, ils ne sont pas équipés en masque, en gel hydroalcoolique, en capacité de les loger correctement sur place. Et s'il y a un employé qui attrape le Covid-19, c'est eux qui sont responsables. Donc, il y a déjà aujourd'hui une grande responsabilité de chaque entreprise vis-à-vis de ça. Moi, je vois d'entreprise, mon village, qui fait l'entretien d'espaces verts. Ils sont très... D'abord, dès qu'il y a des symptômes chez des employés, donc on leur demande de rester chez eux. Ensuite, les équipes, alors qu'en principe ils fonctionnent à deux sur des chantiers, ils fonctionnent tout seuls. Enfin, je veux dire, ils ont changé leur mode de fonctionnement parce que le patron est responsable vis-à-vis de l'employé sur sa protection. Et donc, quand on va déconfiner, les entreprises qui vont... Donc là, celles qui fonctionnent, elles ont ça en tête, avec parfois des grosses difficultés parce qu'elles n'arrivent pas à s'approvisionner en masque, parce qu'elles n'arrivent pas à s'approvisionner en jet hydroalcoolique, parce qu'il n'y a pas d'hôtel, parce que ceci, donc c'est compliqué. Et quand on va déconfiner, ben c'est toutes les entreprises qui vont être confrontées à ça. Et je pense que des choses comme le télétravail, sont des choses qui vont certainement perdurer, maintenu plus longtemps que le confinement, parce que c'est une bonne façon de réduire le nombre de personnes dans les bureaux et de limiter le risque, par exemple.
La circonscription, première circonscription du Pas-de-Calais, grande circonscription rurale, était prête à ce mode de travail. Il y a suffisamment de ressources Internet à disposition sur la circonscription, ou alors il y a eu des secteurs qui ont souffert justement de la fracture numérique. On vous a aidé à remonter ou pas du tout?
Non, pas du tout de remonter là-dessus.
Donc c'est que ça se passe bien. Quand on vous dit rien, on peut estimer que ça se passe bien.
Oui, je pense. J'ai pas de remonte. Franchement, c'est une bonne question. Bon, parce que le plan de développement de la fibre est quand même bien avancé, hein. Donc, je sais pas si on est tout couvert. Bon, nous, Sud-Artois, on était déjà en haut débit depuis 2015. Et le plan de la fibre s'est quand même focalisé sur les zones blanches. Donc, là où on avait des difficultés il y a 3 ans, je pense que ça a été résolu depuis.
Vous avez eu des remontées également des enseignants, du corps enseignant et peut-être également de parents d'élèves ou pas du tout?
Non, par contre, j'ai fait des séances de travail avec le DAZN pour justement parler des futures cartes scolaires, etc. Je lui ai demandé de féliciter en fait tout le corps enseignant parce que moi je vois à travers les gens que je connais, les jeunes au collège, etc. Les profs font un super boulot de télétravail. Moi je leur tire mon chapeau parce que c'est compliqué de le faire. Non, j'ai pas eu trop de choses qui viennent d'eux. Par contre, je les vois travailler et je trouve ça super.
Voilà. Un jugement sur la décision prise par le ministre en termes d'examen, notamment brevet des collèges et baccalauréat, c'était la décision à prendre?
Oui, contrôle continu, c'est ça, hein? Oui, moi je trouve que c'est bien. À partir du moment où les jeunes travaillent, arrivent à travailler de chez eux, par Internet, etc., oui, moi je pense que le boulot, enfin les jeunes que je vois autour de moi qui bossent, ils bossent sérieusement et ils apprennent, ils se développent, hein, donc moi je trouve que c'est bien. C'est bien. De toute façon, là, comme c'est parti, je ne les vois pas reprendre avant le mois de septembre. Hein.
Vous l'évoquiez, votre moment avec le directeur de l'hôpital, et de façon hebdomadaire, vous êtes en lien également avec l'Agence régionale de santé, justement, pour être un levier afin, entre autres, hein, de pouvoir faire pression pour obtenir le matériel nécessaire à tous ceux qui sont confrontés à la gestion sanitaire de cette crise.
Donc l'ARS, elle est à la fois représentée dans la réunion du samedi matin du directeur de l'hôpital et dans la réunion du vendredi soir du préfet, donc Monsieur Champion, le directeur de l'ARS donc régionale, participe à notre réunion départementale. Et dans la réunion du préfet, donc on a deux grands moments. On a le moment de l'analyse sanitaire et puis le moment de l'analyse économique. Hein, donc le directeur de l'ARS est là. Oui.
Petit mot quand même, votre sentiment sur la tenue des premiers tours, du premier tour de l'élection municipale, le calendrier adopté, les mesures pour l'instant annoncées. Ça a du sens, les résultats de cette élection, même sur le premier tour, quand on regarde le très faible niveau de mobilisation. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous ne serez pas meilleur de se dire on reconvoque tout le monde, ce ne sera pas de toute façon la fin du monde?
Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Enfin, moi, je pense que... Bon, moi, j'ai fait une analyse hein, sur les 194 communes de la circonscription. Il n'y a pas de surprise. Enfin, il y a des surprises. Des surprises politiques, des maires pas réélus, des choses comme ça, mais qui ne vont pas s'expliquer par le manque de participation. Moi, je trouve que ça serait pas juste, tous ceux qui ont été élus au premier tour, de les reconvoquer. On a besoin d'avancer quand même. Bon, après, de toute façon, là, on n'arrivera pas, à mon avis, à organiser les choses pour le mois de juin. Donc, on est parti au mois de septembre. Donc, ceux qui n'ont pas été élus au premier tour, et donc ça représente 20% des communes, oui, là, il faut refaire les deux tours, mais pas ceux qui ont été élus au premier tour, je pense pas. Alors quand je dis ça, j'ai pas résolu toutes les questions, hein, parce que moi, le gros problème que je vois, c'est l'organisation des EPCI, parce que tant qu'on n'a pas les 20% restants qui sont élus, je vois pas comment on peut constituer les bureaux.
Alors pour l'instant, justement, en attendant cette période. Les présidents de PCI peuvent plus facilement agir par décision directe du président, soumise à généralement l'approbation tout de même hein, des conseillers en place. Ça peut durer qu'un temps, ça.
Oui, exactement. On est d'accord. C'est déjà compliqué de présider un PCI, le faire quasi seul, hein, parce que après il faut avoir une bonne dose d'organisation hein, pour être en contact avec son bureau de façon, je ne sais pas, hebdomadaire. Enfin, peut-être qu'ils font, j'ai aucune visibilité sur comment ils fonctionnent. Non seulement il y a la difficulté du confinement, mais il y a les bureaux, c'est bancal la façon dont c'est organisé, parce que il y a des vice-présidents qui sont plus maires. Donc ils sont plus vice-présidents, mais enfin ils sont encore maires parce qu'ils sont maires pendant la transition. Est-ce qu'ils ont la même légitimité pour continuer à être vice-président pendant cette transition? Enfin, c'est plein de questions, j'ai pas les réponses, hein, mais en tout cas c'est délicat aujourd'hui de gérer ça.
Une question tout de même sur le monde de l'entreprise, et puis la même question également sur le monde de l'association, parce que vous y avez prêté un intérêt particulier dès le début de mandat sur le dynamisme associatif, sur sa capacité très vite à être solidaire avec des entreprises, par exemple, qui ont réorienté leur production vers des biens de nécessité immédiat.
Oui, c'est de ça que je tire mon optimisme. Je suis un optimiste inconditionnel, hein, baladiche même. Et vous faisiez allusion à au grand drame qu'on a connu au siècle dernier, les deux guerres, notre capacité à reconstruire le pays. Mais c'est ça qui doit donner de l'espoir, c'est que les gens, il y a une majorité, on a beaucoup de râleurs, on a beaucoup de gens qui attendent que ça soit l'autre ou l'État qui fait, mais on a une grosse majorité de gens qui ne disent rien, qui bossent, hein, et qui ont envie de reconstruire, qui ont envie de faire, etc. Moi, je suis toujours très impressionné par ça, et c'est ça qui fait avancer le pays.
On a beaucoup reproché aux politiques d'avoir parlé trop rapidement, d'avoir réponse à tout, de dire oui, de dire non le lendemain parce qu'il fallait répondre. C'est compliqué quand on est en responsabilité politique que de dire je sais pas.
Moi, ça ne me gêne pas. Enfin, vous me connaissez un peu. Ça, je le tiens peut-être de mon expérience d'entreprise. Comme si j'ai rien à dire, je me tais. Et quand je commence à être clair dans ma tête, alors à ce moment-là, je me dis, et cette initiative que j'ai prise avec les entreprises, ça m'a mis du temps pour moi de bien synthétiser comment on pourrait être utile vis-à-vis des entreprises. Voilà, une fois que c'est clair, c'est clair. Mais je suis d'accord que j'ai trop de collègues qui parlent, qui sentent obligés de parler. Alors, parlementaire, ça veut dire parler, certes, mais de grâce, un petit peu de recul de temps en temps. Enfin, je suis un peu dur vis-à-vis de mes collègues, certains de mes collègues, mais ça fait cacophonie et puis ça fait générer des fausses nouvelles et des choses comme ça, quoi. Et puis ça augmente la défiance hein, des citoyens vis-à-vis des parlementaires. C'est mon avis très personnel. Hein.
Justement, une démarche de parlementaire qui s'appelle le jour d'après, pour construire justement et qui propose un espace de discussion, de consultation sur 11 items, par exemple thème 2, métro, boulot, robot, quel monde du travail voulons-nous ? On a également éducation et jeunesse, comment construire une société apprenante ou encore l'avenir de nos territoires, tous ceux dont on a parlé finalement. Vous y avez jeté un coup d'œil sur cette plateforme ?
Non, pas sur cette plateforme-là, mais moi, dans mon groupe, on a des collègues voilà, qui se projettent, qui essaient d'ouvrir le débat sur le monde d'après, etc. C'est bien. Je sais pas comment ils font. Je sais pas comment ils font parce que moi, mes journées sont pleines de traiter les questions du jour. Et le monde d'après, moi, j'ai besoin de savoir encore ce qu'on a dit tout à l'heure. Dans quel état les foyers seront au déconfinement? Dans quel état seront les entreprises? Dans quel état l'État sera? On peut toujours élaborer un monde meilleur, des idées meilleures, mais ça se fait à partir de ce qu'on est et de ce qu'on est au moment donné.
Il y aura tout de même demain dans cette société qui devra se réorganiser des erreurs à ne pas répliquer.
Oui, donc ça je suis d'accord. Et on l'a dit, il y a des productions qu'il ne faut plus délocaliser. Des choses comme les circuits courts, les gens commencent à bien comprendre.
Des soignants qu'il faudra également savoir écouter en dehors de cette période où on a besoin d'eux.
Tout à fait, on est d'accord, complètement. Oui, oui. Il y a plein de choses que l'on va apprendre comme ça, oui. Mais bon, il y a tout à reconstruire, hein. Tout. C'est une grande tâche. On est en train d'apprendre déjà. Je pense que vis-à-vis des soignants, là, il y a une grande prise de conscience. Moi, je trouve ça formidable. Bon, je suis à Melincourt. Ma compagne, elle est à Arras. Tous les soirs, à 20h, elle me fait écouter les applaudissements de la population vis-à-vis des soignants. Moi, je trouve ça formidable. Et c'est croissant, ça. Et donc, ça, c'est une reconnaissance forte. Et ça va se traduire de toute façon dans notre façon de regarder la santé publique.
L'optimiste que vous êtes pense qu'on en sortira grandi de tout ça ?
Oui, 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 oui. On va en sortir avec une envie de faire. Combien de temps ça va durer ? C'est ça la question.
Un jour après l'autre. Je pense que aussi, ça aussi, c'est l'école de la patience. Avant de parler des mesures, même s'il faut le penser, s'il faut l'imaginer, faut rappeler les messages immédiats. Vous disiez tout à l'heure, j'ai pas le temps d'imaginer tout. Immédiatement, ce qu'on nous demande, c'est malgré le soleil, malgré le beau temps, malgré le printemps, rester à la maison.
C'est ça. C'est exactement ça. Il faut rester chez soi. C'est très important. Ouais.
Je vous remercie beaucoup, en tout cas, d'avoir pris le temps sur votre planning chargé pour cet entretien.
C'est important. C'est très important. Voilà, merci d'avoir organisé cette interview, c'est bien.
Merci beaucoup, je vous souhaite de bien vous porter et bon courage.
Merci Hervé.
Bruno Duverger, député de la première circonscription du Pas-de-Calais, était donc l'invité de la Puce à l'oreille sur Radio Scarpe 100C. Merci de votre fidélité et à bientôt pour une nouvelle édition de notre magazine.
La Puce à l'oreille.
C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour.
We are the world. We are the children.
La puce à l'oreille sur Radio Scarpe 107.